dans la tradition bouddhiste, selon les écoles, on fait des prosternations. Alors parfois dans certaines écoles, les personnes font des prosternations en face de l'autel. Parfois on fait des prosternations en face de celui qui enseigne. Mais c'est pas tant, on ne se prosterne pas tant devant l'enseignant, on se prosterne devant l'enseignement qui va être transmis. L'enseignant, c'est celui qui répète ce qu'il a reçu. Et il essaye de le. Enfin voilà, lui, il fait des prosternations de volontaires pour justement se rappeler qu'il n'est pas là pour faire à sa sauce. Il répète ce qu'on lui a transmis, donc voilà, l'héritage spirituel. Et donc, c'est ça le sens des prosternations, on se remet pas tant à l'enseignant, mais on se remet au dharma. On cultive une attitude d'écoute par rapport au dharma, l'enseignement du Bouddha. Voilà, il n'y a pas de culte de la personnalité dans le bouddhisme. On va réciter la prière de refuge. Par le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté,
je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Par le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Par le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres.
Et puis on va commencer par un petit temps de méditation. Donc, tout d'abord, on prend 2-3 minutes pour détendre le corps. Le point important dans la posture, c'est de garder le dos bien droit. On imagine qu'on pousse le plafond avec le sommet de la tête pour redresser la colonne vertébrale et trouver le point d'équilibre dans lequel on sent que la colonne vertébrale tient toute seule. Il n'y a pas nécessairement besoin de faire un effort. Non, il n'y a pas du tout besoin de faire un effort particulier si on trouve ce point d'équilibre. Et ensuite, on prend un moment pour relâcher toutes les tensions. On se relaxe complètement. Et dans un premier temps, on peut se laisser pénétrer par le sens de la prière qu'on vient de réciter, la prière de refuge. Le refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Le refuge dans le Bouddha, c'est notre aspiration à nous éveiller. Notre aspiration à être lucide, parce qu'on comprend que c'est le seul refuge ultime contre la souffrance. On ne peut pas trouver de refuge définitif, ultime, dans le monde, même si le monde peut nous apporter beaucoup de satisfaction. Il n'a pas le pouvoir de nous apporter le bonheur ultime auquel on aspire. C'est pour ça qu'on aspire à l'éveil. On aspire à voir les choses clairement, à comprendre les choses plus profondément, afin de mettre un terme à la souffrance. C'est ça qu'on appelle le refuge dans le Bouddha. Le Bouddha en tant que notre nature de sagesse. Et pour ça, on va avoir besoin d'une méthode. On va avoir besoin d'un chemin. Et c'est ça le refuge dans le Dharma. C'est à la fois tout ce que le Bouddha en terre a enseigné, un chemin qui nous permet de mettre un terme à l'illusion. Mais le Dharma, ça ne concerne pas seulement les enseignements du Bouddha. On peut trouver le Dharma, on peut trouver la vérité partout, dans la vie de tous les jours, dans les situations, dans nos relations, à partir du moment où ça nous permet de nous réveiller de nos illusions, de nous confronter à nos illusions. Ce qui nous permet d'arrêter de nous raconter des histoires, ça fait partie du Dharma. Et enfin, le refuge dans la Sangha. La Sangha, ça veut dire Sangha, ça veut dire celui qui aspire à la vertu. Prendre refuge dans la Sangha, c'est se permettre d'être influencé, de recevoir une influence positive de tous ceux qui aspirent à l'éveil, de tous ceux qui pratiquent la vertu pour s'éveiller. Et se rapprocher de ces personnes-là pour recevoir leur influence positive. Qui nous encourage sur notre projet d'éveil, ça fait partie du refuge dans la Sangha. Ça peut être des pratiquants de la voie bouddhiste, ça peut être des gens qui sont plus avancés sur ce chemin, mais pas seulement, ça peut être aussi des gens de notre entourage, des gens auprès de qui on sent qu'on reçoit une influence positive. Et une fois qu'on s'est laissé pénétrer par le sens de cette prière, on peut commencer la méditation, commencer à observer notre esprit. Dans cet objectif, être plus lucide. On est conscient de tout ce qui se passe. En termes d'émotions, de sensations, de perceptions. Et on se permet de rester très ouvert, très détendu par rapport à tout ce qui vient. On laisse les choses venir, on laisse les choses partir. On ne retient rien, on ne bloque rien. On ne fabrique rien. On reste totalement naturel. On se dispense de faire le moindre effort. Et en même temps, on reste très conscient de tout ce qui se passe. pour ce soir, je vais vous parler, partager avec vous ma compréhension de ce qu'on appelle l'esprit. Parce qu'on parle beaucoup de l'esprit dans le bouddhisme, dans le dharma, précisément, parce que c'est la clé. C'est tout le propos du dharma, c'est de comprendre justement cet esprit, comprendre notre esprit, comprendre ce que nous sommes. C'est là la clé de la libération de la souffrance et de la libération de l'illusion. Et donc c'est pour ça qu'on en parle. Mais c'est assez difficile d'en parler. Quand on parle de l'esprit, c'est pas pour amener une nouvelle théorie sur le tapis. On parle de l'esprit pour observer notre fonctionnement, observer et avec quoi on le fait, avec quel outil on observe l'esprit, avec notre esprit. Donc on parle d'une expérience. On parle pas d'une théorie, on parle d'une expérience. Et c'est tout le propos parce que si on comprend l'esprit, si on voit clairement, si on comprend clairement notre esprit, la nature de notre esprit, alors c'est ce qu'on appelle l'éveil. Quand l'esprit se reconnaît lui-même pour ce qu'il est, on appelle ça l'éveil. Lorsqu'on ne comprend pas cet esprit, lorsque l'esprit ne se reconnaît pas, lorsqu'il y a un malentendu sur ce qu'est l'esprit, on parle de samsara. On parle d'ignorance. L'ignorance de quoi ? L'ignorance de ce que nous sommes. Et cette ignorance, ce samsara, conduit à la souffrance. Ne reconnaissons pas la nature de l'esprit, on est maintenu dans une ignorance par rapport à ce qu'on est, et donc du coup, de cette ignorance naît toute la souffrance, tous nos problèmes, et tous nos problèmes passés viennent de là, tous nos problèmes présents viennent de là, tous nos problèmes futurs viennent de là, viennent de cette confusion, de ce malentendu par rapport aux choses, du fait qu'on ne voit pas les choses clairement. Et c'est quelque chose qui... parfois les gens disent, on parle beaucoup de la souffrance dans le bouddhisme, vous pourriez pas parler un peu d'autre chose? D'un côté, c'est vrai, on en parle beaucoup, mais on en parle parce que plus on comprend ce qu'elle est, plus on se penche sur cette souffrance, sur les mécanismes de la souffrance, plus on peut s'en libérer. Et c'est important de voir que dans le samsara, parfois on a des répits. Parfois les choses vont bien. Les choses... Il y a des moments où les choses vont bien. Où on a des satisfactions, où les choses se passent bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on est dans le samsara, tant qu'on ne comprend pas clairement la nature de notre esprit, on parle de la nature de Bouddha, c'est de ça qu'on parle, la nature de Bouddha, la nature de notre esprit, on va vivre la souffrance, on va rencontrer ce que le Bouddha appelle dukkha. Tôt ou tard, on ne sait pas sous quelle forme, mais on va inévitablement rencontrer la souffrance. Et on ne sait pas dans quelle mesure, mais tant que la racine du samsara n'est pas coupée, tant qu'il y a cette ignorance en nous, on va la rencontrer. Et il faut bien comprendre ça. Le propos du dharma, le but de la voie bouddhiste, c'est de déraciner cette ignorance, déraciner ce malentendu, comprendre ce que nous sommes, observer clairement ce que nous sommes. Le samsara, donc on a parlé de dukkha, voilà, les derniers mois, on a pas mal parlé de dukkha, de la souffrance, et là, on va parler de l'origine de la souffrance. Quelle est la source de dukkha? Quelle est donc l'origine du samsara? L'origine du samsara, donc, c'est ce malentendu qui fait que l'esprit, quand on parle d'esprit, parfois on parle de conscience. Esprit, on parle d'expérience. Quand on parle de notre esprit, on parle d'expérience, on parle de conscience. Et le samsara, en fait, c'est... quand on parle d'expérience, par exemple, quand on fait une expérience, quand on parle d'expérience, on ne peut pas envisager de parler d'expérience sans parler d'être conscient. Si on fait une expérience, c'est qu'on en est conscient. Et de la même façon, on ne peut pas parler d'être conscient sans parler de faire une expérience. Si on est conscient, on est forcément conscient de quelque chose. Même si ça pourrait être conscient qu'il ne se passe rien. Mais conscient qu'il ne se passe rien, c'est déjà une expérience. Peut-être ça peut être conscience de... Il n'y a pas de pensée, il ne se passe rien dans l'esprit, mais à partir du moment où j'en ai conscience, c'est que je fais l'expérience. L'expérience peut-être qu'il ne se passe rien, mais c'est déjà une expérience en soi. Et une expérience en soi, ça peut être... C'est jamais le néant. C'est jamais le néant. Quand on parle d'esprit, personne n'a expérimenté le néant. Parce que si on dit néant, c'est-à-dire rien, personne ne l'a expérimenté. Si j'expérimente le néant, c'est que je suis conscient de quelque chose. Peut-être conscience d'un néant, mais du coup, ça prend une forme. Ça peut être tout noir, ça peut être tout blanc, ça peut être tout rien, mais c'est quand même une expérience à part entière. L'expérience de tout noir, tout blanc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc le néant, du point de vue bouddhiste, ça n'existe pas. La notion de néant, c'est juste une idée, c'est juste un concept. Du point de vue expérimental, ça n'existe pas. S'il y a expérience, c'est vraiment ce que ça me fait penser. Je me suis fait opérer la semaine dernière de l'oreille droite. Et donc du coup, j'étais sous anesthésie générale. Et pour moi, je me suis dit, tiens, ça peut être l'occasion de faire une expérience. Et je vais essayer d'être conscient au moment où on va m'anesthésier. Et donc, tu vois, j'étais vachement déterminé. Je vais être conscient. Et vraiment, ça... Et je me suis réveillé, donc, d'après mon heure d'opération, d'anesthésie et mon heure de réveil, il s'était déroulé 6 heures. Moi, quand je me suis réveillé, j'avais l'impression qu'il s'était passé une fraction de seconde. C'est-à-dire, déjà, et je regarde l'heure, attendez monsieur, elle est à l'heure votre horloge. C'est-à-dire que pour moi, il s'est passé rien du tout. Il n'y a pas eu un moment de passion. Tout de suite, on est passé en sommeil profond, et du point de vue du temps, il n'y a pas eu d'intervalle. D'ailleurs, je me suis endormi, je me suis réveillé dans la seconde qui suivait. C'est ça mon expérience. Pour moi, il n'y a eu aucune interruption. Pour le chirurgien et son équipe, il s'est passé 6 heures d'efforts, etc. Je n'en ai pas vu la couleur. Alors, je peux déduire qu'il s'est passé une période où j'étais inconscient. Je peux le déduire par rapport à l'horaire, par rapport à ce qu'on m'a raconté, mais du point de vue de l'expérience, moi, je n'ai pas vécu de néant. J'ai vécu moment d'endormissement, moment de réveil. Point de vue de mon expérience, il n'y a pas eu l'expérience du blackout. Ça, c'est pas ça. Je peux le déduire qu'il y a eu un... Voilà. Mais on parle en termes d'expérience. Point de vue de l'expérience, on ne peut pas dire qu'on a vécu l'inconscient parce que, par définition, on était inconscient. Notre expérience n'est pas arrêtée. Tout ça pour vous dire que quand on parle de conscience, on parle forcément d'expérience. Quand on parle d'expérience, on parle forcément de conscience. L'un et l'autre ne sont pas séparés. En fait, on parle de la même chose. Peut-être sous un angle différent, mais conscience et expérience ne sont pas deux choses séparées. S'il y a conscience, il y a expérience. S'il y a expérience, il y a conscience. Le samsara, c'est ce malentendu en fait qui nous fait croire que la conscience et l'objet de la conscience, l'expérience, sont deux choses distinctes en essence. C'est que d'un côté, il y a la conscience, et de l'autre côté, l'expérience. Et ce qu'on traduit, en fait, c'est d'un côté, il y a un sujet, la conscience, qui est sujet d'une expérience qui serait autre, qui serait distincte en essence du sujet. Et on se met à croire à une dualité, une dualité qui serait véritable. Un sujet séparé de son expérience, une expérience qui existerait en dehors du sujet. Et dans ce gros malentendu, on a toute l'origine de nos problèmes, de la souffrance. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas se mettre à croire que l'éveil, ce serait qu'il n'y a plus de dualité. Simplement, on comprend dans l'éveil que cette dualité, elle n'est qu'apparente. C'est une apparence de dualité. Dans le samsara, on croit vraiment à la réalité de cette dualité. On croit vraiment en un sujet et un objet séparé. Ce que vise à nous faire comprendre la pratique du dharma et ensuite à nous le faire réaliser, là on est dans l'intellect, une approche intellectuelle. Ce que vise à nous faire réaliser le dharma, c'est que cette conscience et cette expérience en fait ne sont pas deux. Elles sont en essence, elles ne sont pas distinctes en essence. Elles procèdent du même esprit. L'éveil procède de l'esprit. L'éveil, le fait de réaliser que sujet et objet ne sont pas distincts en essence, c'est l'éveil, ça procède de l'esprit. Le samsara procède aussi de l'esprit. Fabriquer un moi séparé d'un objet, c'est aussi une fabrication de l'esprit, mais une fabrication, une sorte de bug qui s'est instauré malencontreusement et qui crée un malentendu dramatique. Un malentendu dramatique parce qu'il va être l'origine de toute souffrance. À partir du moment où l'esprit s'envisage comme un sujet séparé d'un objet, du coup, toute l'expérience qui va être envisagée comme ce qui m'arrive à moi. Voilà ce qui m'arrive. C'est pas ce qui arrive qui est un problème. Ce qui arrive de positif ou ce qui arrive de négatif qui est un problème. Le problème, c'est le « me ». Voilà ce qui m'arrive à moi. Et à partir de là, si ça m'arrive à moi, bah tout ce qui m'arrive, je vais le filtrer. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est mauvais pour moi? Le sujet s'envisage comme distinct de ce qui arrive. Donc, du coup, tout devient soit source d'attachement, soit source d'aversion. L'attachement, c'est si ce qui est en train de m'arriver, c'est bon. Je vais m'y attacher, je vais vouloir que ça dure. Si j'envisage que c'est ça le bonheur, je vais lui courir après. Si j'envisage que c'est ça la souffrance, je vais essayer de ne pas rencontrer cette situation-là. Et quand je la rencontre, je vais tout faire en sorte pour m'en débarrasser. Parce que j'envisage que c'est quelque chose qui est distinct en essence de moi. Voilà d'où vient l'attachement et l'aversion, et c'est ça qu'on appelle le samsara, donc qui procède de l'ignorance. Vous avez les trois poisons de l'esprit: ignorance, l'esprit ne se reconnaît pas lui-même, il fabrique un scénario tordu là-dessus, un moi séparé de son expérience, et du coup naissent l'attachement, l'aversion, qui est source de toutes les formes de souffrance que vous pouvez voir dans le monde, à la fois chez nous et à la fois chez les autres. Ça procède de l'attachement et de l'aversion. Et donc, une fois qu'on sait ça, bah oui, et maintenant on fait quoi? Parce que voilà, là du coup c'est très intellectuel. Mais déjà, même comprendre intellectuellement, ça peut nous aider à comprendre pourquoi le dharma, pourquoi la méditation. La méditation, ça n'a pas pour but de changer le monde, ça n'a pas pour but de faire qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de maladies. Parce que ça, c'est pas tant de notre ressort, bien sûr. On aimerait tous vivre dans un monde où il n'y ait pas de violence, vivre dans un monde où tout le monde prend en considération l'autre, vivre dans un monde où il n'y ait pas de pauvreté, pas de famine. Mais ça, dans le bouddhisme, on dit la cause de ça, c'est l'éthique. Si on voulait que tout, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de violence, la cause de ça, ça serait que tous, on renonce à... dans le bouddhisme, l'éthique, c'est l'intention, c'est le renoncement à nuire aux autres. Renoncer à l'intention de nuire aux autres. Si tout le monde avait ça, si tout le monde pratiquait ça, d'après les enseignements, en fait, on vivrait au paradis sur terre. Le problème, c'est que ça ne dépend pas de nous. Nous, on peut mettre notre pierre à l'édifice. On pratique l'éthique. Juste parce qu'on dit, si je me transforme, ça transforme le monde. Ça a des répercussions. Mais n'empêche que pour avoir des répercussions plus vastes, le propos de la voie bouddhiste, c'est pas tant de travailler sur les autres, c'est de travailler sur soi. C'est de se libérer de l'ignorance, qui est la racine de toute souffrance. Si on se libère de l'ignorance, tout ce qu'on fera aura des conséquences positives. Tout ce qu'on fera aura un rayonnement positif autour de nous. Et même, ça se fera sans intention. Il n'y aura pas besoin d'avoir l'intention d'aider. On dit réaliser l'éveil, c'est comme... c'est pas devenir un super-héros qui aurait le pouvoir de sauver les autres. Pas dans ce sens-là. Un Bouddha, on dit, aide les autres, mais sans intention. Il le fait naturellement, sans effort. Un peu comme un soleil. La nature du soleil, bah, c'est de rayonner. Et le soleil rayonne sans distinction. Il ne dit pas, tiens, je vais rayonner sur lui et pas sur lui. C'est dans la nature du soleil de rayonner, il suffit de se mettre au soleil. Mais donc voilà, c'est ça le fait de réaliser sa propre nature de sagesse, fait que ça rayonne de qualité. Qu'est-ce qu'on éveille quand on réalise sa propre nature? On éveille les qualités de l'esprit. Elles sont déverrouillées, du coup elles peuvent rayonner sans limite. Donc le propos du dharma, c'est de s'attaquer à ce malentendu, cette confusion, cette croyance en un moi. C'est pas tant s'attaquer à l'ego, c'est pas détruire l'ego, c'est comprendre que cet ego n'a jamais existé, que c'est une fabrication de l'esprit. Et pour le comprendre, pour le voir, il faut pouvoir observer l'esprit très profondément, avoir un esprit très clair, très lucide, pour voir justement les mécanismes qui se mettent en place, nos mécanismes de réaction par rapport aux choses, pour voir que la croyance au moi dans ce processus, en fait, est quelque chose qu'on fabrique et non pas quelque chose qui est là. C'est ça le propos de la méditation. C'est si je vois clairement, je vais voir que c'est quelque chose qui est fabriqué, qui n'est pas naturel. C'est fabriqué. C'est quelque chose qu'on colle sur une réalité. Donc pour désamorcer ce processus, ben il faut le voir. Il faut le voir clairement, comment il se met en place. Et comment on fait? Ben justement, en ne faisant pas grand-chose. On arrête de faire en méditation. La méditation, ça consiste à s'autoriser, se permettre d'observer les choses sans trop s'impliquer émotionnellement, c'est-à-dire sans réagir. Quand je dis réagir, je parle pas de réagir physiquement en passant à l'action, on n'en est pas là. Je parle en fait de ce qu'on appelle le karma. Karma, c'est le processus réactionnel de l'esprit. Quand on parle de karma, on parle de réaction psychique. On parle de l'esprit. On ne parle pas tant du passage à l'action. On parle de schéma réactionnel. Et ça induit ensuite un passage à l'action. Et quand on parle de karma, en fait, on parle du fait que si on observe l'esprit, on voit qu'on est sans arrêt en train de réagir, tout le temps, à la moindre chose qui se produit dans l'esprit. Chose positive, ça j'aime, ça j'aime pas, ça me fait peur, ça je veux garder, ça je veux maintenir, ça je veux pas rencontrer, ça je veux m'en débarrasser. La moindre pensée, la moindre sensation, agréable, désagréable, on porte des jugements sur tout. C'est de ça qu'on parle. Quand on parle de karma, c'est vraiment des schémas réactionnels où on porte des jugements, tout fait. Et c'est très automatique. Ils sont déjà là. C'est clé en main. Dès qu'il y a un truc qui se produit, on a déjà un schéma réactionnel qui se met en place. Un conditionnement, une habitude de réagir. Au niveau de l'esprit, hein, je parle. Et donc en méditation, dans un premier temps, on nous apprend à chiner. On nous apprend à rester stable. Rester stable, ça veut dire je m'autorise à être OK quoi qu'il arrive. Bien sûr, il va y avoir les jugements, les commentaires qui vont s'élever dans l'esprit, mais je me permets d'être OK par rapport à tout ce qui peut se passer. Être OK, ça veut dire je laisse venir, c'est OK si ça vient, c'est OK si ça part. Les choses bien, c'est OK si ça vient, c'est OK si ça part. Les choses pas bien, c'est OK si ça vient, c'est OK si ça part. Voilà, je me permets ça. Et plus on se permet ça, plus on va gagner en stabilité. La stabilité, c'est pas chercher un état où il se passe plus rien. La stabilité, c'est j'apprends à me détendre en fait. J'apprends à me relaxer, à ne pas trop m'impliquer émotionnellement, m'impliquer, trop croire à ses jugements. Alors, on s'autorise à ne pas se laisser trop influencer par les j'aime, j'aime pas, faudrait que ce soit comme ci, faudrait pas que ce soit comme cela. Non, je continue d'observer. Je garde une sorte de neutralité par rapport à ce qui se passe pour pouvoir observer les choses objectivement. Parce que nos jugements ne sont pas 100% objectifs. Quand on dit j'aime, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est agréable, ça c'est désagréable, ça c'est beau, ça c'est pas beau. Tout ça, c'est quand on observe plus clairement, on voit que c'est pas 100% objectif. C'est très, voilà, c'est beaucoup de conditionnement. Et ces deux conditionnements, ils nous empêchent d'avoir une vision, d'avoir une vue claire, claire du processus, une vue claire de ce qui se passe, parce qu'on fait des procès. On pose des verdicts sur tout ce qui arrive. Donc, on a plein d'a priori. Tant qu'il y a trop d'a priori, tant qu'on est trop influencé par ces a priori-là, du coup, on ne peut pas observer clairement. Et chiner, plus on développe chiner, plus on pratique chiner, plus on arrive, et c'est ça l'aboutissement, à ce qu'on appelle une équanimité cognitive. Équanimité, ça veut pas dire tout se vaut, mais ça veut dire que je reste stable, je reste dans une absence de verdict, quoi qu'il arrive. Voilà. J'écoute pas trop ces commentaires qui vont dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, je devrais pas, je devrais. Voilà. Je reste équanime. Tous les phénomènes sont traités en tant que phénomènes. Les étiquettes qu'on met, on les laisse de côté. Bon, pas bon, c'est pas le problème. J'observe les phénomènes pour ce qu'ils sont. Voilà, c'est pour ça que certains utilisent le terme d'équanimité cognitive, parce qu'on ne peut pas empêcher l'esprit d'avoir des cognitions. L'esprit rentre en contact avec tout ce qui se prête à la conscience, les pensées, les sensations, les perceptions. Voilà, il y a plein de choses qui se passent. Alors, l'esprit, c'est une faculté cognitive en fonctionnement permanent. Mais avec Chiné, on s'autorise à être OK. On s'autorise à laisser ces choses venir, partir, et c'est OK. Et plus notre esprit va être stable, plus il va devenir clair. plus on va pouvoir observer des mouvements de plus en plus subtils, plus on va pouvoir observer les mécanismes qui se mettent en place. Et observer justement le fonctionnement de l'illusion. Là où l'esprit commence à mettre des moi, des me, là où il n'y en a pas en réalité. Et là où c'est pas du tout pertinent, où c'est même problématique d'en mettre. Et donc c'est pour ça qu'on dit la méditation, c'est pas tant d'essayer de faire quelque chose. La méthode, c'est justement d'arrêter de trop s'impliquer émotionnellement, de trop réagir. Quand quelque chose, de pénible arrive, mais aussi quand quelque chose de bien nous arrive. Quand quelque chose de bien nous arrive, si on a tendance à en faire tout un plat, à le vivre trop intensément, bah le problème c'est qu'on se prépare une frustration, une déception future. Parce que la chose en question, qui nous procure beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, bah elle se transforme, elle change. Et donc du coup, si on développe trop d'attachement par rapport à ça, bah dès que ça commence à nous échapper, dès que ça commence à changer, se transformer, on développe de la peur, on développe l'appréhension. On n'a pas envie que ça parte, on a envie que ça dure. Et dès qu'il y a ça, dès qu'il y a de la peur, bah, du coup, il y a de la souffrance. Et ça peut même générer beaucoup de souffrance, d'attachement. Donc, c'est pas seulement vis-à-vis des situations négatives qu'on doit travailler ça, qu'on doit travailler sur nos réactions trop fortes, mais aussi sur les bonnes situations. Là, on parle bien de travailler sur nos réactions, parce que beaucoup de gens pensent que quand on dit ça, ça veut dire bah, à ce moment-là, on ne fait plus rien. On ne ressent plus rien. On ne fait plus de projet. On n'a plus d'ambition. Si on nous marche sur le pied, on ne ressent plus rien, on ne dit plus rien. Bah c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Au contraire, quand on parle de réaction, on ne parle pas d'action. Quand il y a action, on parle d'agir librement. Réaction, c'est on agit en pilote automatique. Karma, pilote automatique. Dans lequel il n'y a pas de liberté. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Et parfois les gens disent, bah ouais, mais si justement on s'autorise à ne plus trop s'impliquer émotionnellement, plus trop réagir, bah du coup on fait plus rien, on fait plus de projet. Mais c'est pas le cas en fait. Si on développe une attitude qui permet d'envisager que quel que soit ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas, c'est ok. Du coup, on développe beaucoup moins de peur, beaucoup moins d'appréhension. Et le fait de développer moins de peur, en fait, ça nous rend beaucoup plus libre de faire ce qu'on veut. Se sentir... Il y a une différence entre avoir des attentes et avoir une motivation. J'aime bien distinguer l'attente de la motivation. Quand on dit ne pas avoir d'attente, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne pas avoir de motivation, ça ne veut pas forcément dire avoir même de grandes motivations, de grands projets. Dans le dharma, dans la prière de refuge, on aspire à l'éveil pour pouvoir aider tous les êtres à réaliser l'éveil. C'est un projet hyper ambitieux. Mais on pourrait avoir d'autres aspirations. On pourrait avoir l'aspiration d'aider les autres. On pourrait avoir l'aspiration de faire une belle carrière. On pourrait avoir l'aspiration d'être un bon président. Ou d'avoir un bon président. Voilà, ça peut être... Je ne lance absolument pas dans un, je lance absolument pas dans un débat politique. Je me dis juste, voilà, quelqu'un qui a l'aspiration d'avoir un bon président, bah pourquoi pas avoir. Quand on dit ça, on peut même faire des choses. Si par exemple, il y a un candidat qui nous plaît aux prochaines élections, et ben on peut faire quelque chose pour que ce candidat soit élu. On peut.
C'est pas un bon exemple. Comment? C'est pas un bon exemple.
Je sais pas où est-ce que je parle. Je sais pas où est-ce que je. Je suis en train de. Ouais, en plus, c'est pas vraiment mon terrain. La plus gentille, je...
Non, tu te présentes pas.
Bon, on pourrait, voilà, je sais pas, moi, parler à son entourage, faire des choses, encourager les gens autour de nous, etc. Mais n'empêche que le jour des élections, d'abord, on est, si cette personne qu'on aime bien est élue, tant mieux. Mais ça résout pas le schmilblick. C'est-à-dire que si cette personne est élue, c'est très bien. Mais à la fois, si on veut un bon président, c'est qu'il y a une idée derrière. C'est pas tant pour avoir un bon président, c'est pour que notre pays, peut-être, on veut qu'il y ait des choses qui s'améliorent dans notre pays, des choses qui aillent mieux. Ouais, je sais, hein, je suis sur un terrain. C'est très marrant. Mais ce candidat, de toute façon, un jour, il va falloir qu'il laisse la main. Ça va peut-être changer, donc ça ne résoudra pas le schmilblick, et puis peut-être que ça ne sera pas le candidat qu'on espérait. Je vais laisser tomber. Je vais... on va revenir à les attentes, la motivation. La motivation, c'est... on aspire à quelque chose. On voudrait que les choses se passent bien. Voilà. Noël. Tiens, on va parler de Noël. Là, je suis plus... comme beaucoup d'entre nous, je vais aller passer Noël avec ma famille, avec mes proches. Et ma motivation, mon aspiration, c'est que ça se passe bien. L'attente... ça serait que ça se passe bien et j'ai une idée de comment, de ce que c'est que ce bien se passer. J'ai une idée trop figée de qu'est-ce que c'est qu'un bon Noël. C'est ça l'attente. C'est pas tant j'aimerais que ça se passe bien, c'est je vois comment ça serait bien se passer. J'ai une idée trop figée de c'est quoi bien se passer. Et c'est ça le problème. C'est en ça que ça crée des obstacles, l'attente. C'est que on n'est pas prêt à ce que les choses ne se conforment pas à nos attentes. On a une idée, trop figée. Il y a un exemple que prend qui avait pris Rinpoche Rinpoche une fois qui m'avait bien amusé. Il avait été invité. Lui et d'autres lamas par une femme qui faisait partie de ses étudiantes, et vraiment cette femme, elle avait vraiment mis les petits plats dans les grands, comme ça qu'on dit, les petits plats dans les grands. Elle voulait que tout soit nickel et elle était super stressée. Elle était là, il y a plein de choses à faire, etc. On va être en retard. Et donc Rinpoche Rinpoche, à un moment donné, il descend en cuisine, il va la voir. Il y a plein de choses à faire, etc. Est-ce que je peux vous aider? Oui, mais il y a plein de fois, il y a plein de choses à faire. Et puis il n'arrivait pas à lui faire dire, parce que les plats étaient prêts, est-ce que je peux mettre la table? Non, c'est déjà fait, la table est mise, etc. Mais il y a plein de choses à faire, je vous dis, il y a plein de choses à faire. Et puis au bout du compte, cette personne était super stressée, et puis il a fini par... comprendre qu'en fait la seule chose qui lui restait à faire finalement c'était de se changer. Et souvent les gens réagissent beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça. Et on en fait tout un truc. On en fait des montagnes. Il y a un événement qui se produit. On veut que ça se passe bien. Mais du coup, on a une idée tellement figée que même si tout est en ordre, tout est OK, tout est planifié au millimètre près, eh ben, on s'inquiète. On s'inquiète beaucoup. On angoisse beaucoup. On n'autorise pas les choses à suivre leur cours. Parce qu'on a une idée qui est trop figée. Et voilà, c'est pour ça que je voulais faire la distinction entre le fait d'avoir des attentes et ça n'empêche pas d'avoir une motivation. Quand on a la motivation que ça se passe bien, on peut laisser les choses être comme elles sont. Et parce qu'on est prêt aussi, voilà. Moi, j'aimerais bien que le Noël se passe bien. Et je vais mettre ma pierre à l'édifice, je vais faire en sorte que tout se passe bien. Mais n'empêche que ça peut ne pas se passer comme je l'imagine. Il peut y avoir des gens qui viennent à contre-cœur, qui vont être énervés, qui vont être... Enfin, après, tout ne dépend pas de nous. Et ça, c'est OK d'être prêt à ça. Prêt à ce que tout ne se passe pas comme prévu. Mais si on n'a pas trop de peur par rapport à ça, si on n'a pas trop d'inquiétude, alors finalement, qu'est-ce qui viendrait nous perturber? Qu'est-ce qui nous empêche justement de faire des choses? Qu'est-ce qui nous empêche de nous lancer dans des projets, même ambitieux, à partir du moment où on n'a pas de crainte, parce qu'on sait que ça peut bien se passer, et si ça se passe bien, c'est OK. Et si ça ne se passe pas bien, c'est OK aussi. Et même parfois, quand les choses ne se passent pas comme on l'avait envisagé, parfois c'est mieux. Ça nous arrive parfois de voir qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas du tout déroulé comme prévu, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Et en fait, finalement, mais tant mieux. On a vu que grâce à ça, on a pu peut-être en tirer une leçon, apprendre quelque chose. Ça a pu être une source d'enrichissement. Ça a même pu nous permettre de grandir. Parfois, le fait que on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, puis même on a rencontré des situations pénibles. C'est pas 100% négatif. Même parfois, ça peut s'avérer positif. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler sur nos attentes. De laisser les choses se dérouler. C'est ça qu'on entend par être naturel, en fait. Quand on a des attentes, quand on a trop d'attentes, on n'est pas naturel. Être naturel, c'est finalement être normal, sans trop d'aversion, sans trop d'attachement, sans trop d'attente. Et ça ne nous empêche pas de vouloir que les choses se passent bien, ça ne nous empêche pas d'être actif, mais actif dans le bon sens du terme. Ça n'empêche, au contraire, si on est libéré de nos peurs, si on est libéré de nos appréhensions, on a beaucoup de moyens d'action. On n'est pas paralysé, on n'est pas figé, en plus on a un discernement, parce qu'on n'est pas trop impliqué émotionnellement dans ce qui se passe. Ah, faudrait que ça se passe comme ça, faudrait pas que ça se passe comme ça, etc. Donc du coup, ce discernement nous aide à avoir beaucoup de moyens d'action. Et plus on est, plus on cultive ça, plus on devient stable et plus on devient paisible. Paisible, ça veut pas dire que tout se passe à merveille, qu'il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de... Tout le monde est gentil avec... C'est pas ça être paisible. Paisible, c'est... Voilà, c'est... Les choses suivent leur cours, les bonnes choses, les mauvaises choses, voilà, c'est... Moi, j'aime bien l'image de la navigation, qu'on utilise aussi dans les paraboles. C'est qu'on ne peut pas faire en sorte que la mer, elle soit toujours calme. Non, la mer parfois elle est agitée, parfois elle est très agitée. L'idée de la pratique, c'est d'apprendre à naviguer, c'est-à-dire à surfer sur les vagues et rester en paix. Et si on arrive à justement à rester en paix par rapport à toutes ces fluctuations, là on peut vraiment parler de paix. Et on peut vraiment parler de joie, du coup, parce que tout peut se laisser expérimenter. Il n'y a aucune expérience qui viendrait, qui serait, qui, avec l'entraînement, et ensuite avec la réalisation, aucune expérience ne sera susceptible, si on sait comment gérer, si on sait comment l'apprendre, si on sait comment la vivre, ne sera susceptible de nous détruire, de nous mettre totalement, de nous abattre complètement. Et c'est de là qu'on parle de joie. Quand on parle de joie dans le dharma, c'est pas tant la joie associée au plaisir des circonstances agréables. Ça aussi, c'est source de joie. Mais quand on parle de la joie véritable, c'est la joie de pouvoir faire face à n'importe quelle situation. Donc tout devient intéressant. Si on sait qu'on peut gérer, si on sait qu'il n'y a rien qui peut nous détruire ou nous affecter profondément, parce que on sait comment faire face, on sait comment le vivre et on n'est pas trop en réaction, du coup tout devient source d'intérêt. Situation positive, situation négative, tout ça devient le chemin. Tout devient propice à l'éveil, tout devient propice à s'enrichir. Agréable, enrichissement, désagréable, enrichissement. Et là, du coup, le chemin devient très intéressant, il devient très nourrissant. On peut s'offrir à n'importe quelle situation, on peut s'ouvrir à n'importe quelle situation. Et parfois, les enseignements, on parle de intégrer la souffrance et le bonheur au chemin. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Et la méditation, c'est ça aussi. La méditation, quand on comprend comme ça, c'est pas rester sur un coussin. Là, on parle de la véritable méditation, c'est-à-dire la pratique. On s'entraîne à ça. On s'entraîne à rester détendu. À pas trop, voilà. Pas trop craindre, pas trop s'attacher. Laisser les choses circuler. Plus on est en paix, plus on est joyeux, plus on va avoir en plus une observation des choses de plus en plus précise, de plus en plus vive, de voir tous les mouvements de l'esprit, tous les mouvements subtils. Et très naturellement, on va pouvoir comprendre que la conscience et l'expérience ne sont pas deux choses distinctes en essence. C'est juste une apparence de dualité, mais qu'en fait, tout ça procède de notre esprit. Si on comprend que tout ce qui m'arrive, en fait, ne m'arrive pas, c'est juste un jeu d'apparence. Si on voit que ce qui est envisagé comme favorable ou défavorable, en fait, procède du même esprit, ne sont pas deux, du coup, il n'y a plus rien à craindre. C'est un peu comme à quelqu'un qui vit un rêve et puis qui s'aperçoit qu'en fait il est en train de rêver. On prend conscience qu'on est en train de rêver, qu'en fait on est au fond de notre lit, que les apparences d'ennemis, d'amis, ça procède du même esprit. Que le sujet et l'objet, en fait, ça a lieu dans le même esprit. Du coup, il n'y a plus rien à craindre. Il n'y a plus rien qu'il faudrait absolument rejeter, dont il faudrait absolument se mettre à l'abri. Et il n'y a plus rien non plus dont il faudrait absolument retenir ou s'approprier. C'est juste le jeu de l'esprit. Alors effectivement, quand on a cette compréhension-là, qui vient naturellement avec la pratique, qui vient petit à petit, les choses deviennent beaucoup, beaucoup plus faciles. Parce que là, on arrive à une compréhension. Mais la pratique reste la même, on se détend. D'ailleurs, on reste OK avec ce qui apparaît, positif, négatif, sauf qu'avec la compréhension de ce que nous sommes, ben on sait pourquoi on se détend. Au départ, avec Shiné, on nous invite à le faire, mais on nous invite avec une compréhension intellectuelle, avec le raisonnement, de voir que courir après les choses positives, bah, ça marche pas, ça nous empêchera pas, ça les empêchera pas de partir. Se mettre à l'abri des choses négatives, ça les empêche pas d'arriver. Donc avec le raisonnement, on prend des résolutions. Tiens, je vais changer de stratégie. Mais ça reste encore des stratégies, bien que ça a un impact très positif, parce qu'on se relaxe, parce qu'on se détend. Donc on apprend à mieux vivre les choses. Mais dès lors qu'on comprend la nature de ce que nous sommes, du coup, c'est plus une stratégie. C'est, on le voit, donc du coup, ça demande de moins en moins d'efforts et ça devient de plus en plus évident, facile. Et ça nous accompagne tout le temps. Et là, on parle de libération. C'est qu'à un moment donné, on ne voit plus de problème dans les problèmes. Il y a toujours des problèmes. Mais on ne voit plus de problème dans les problèmes. C'est, tout est chemin. Tout est prétexte à déraciner l'illusion. Dès qu'il y a un problème, ah, il y a un problème, donc j'ai une illusion. Tiens, je vois mon illusion, hop, je reviens. Et là, l'entraînement, il se situe à un autre niveau. C'est-à-dire, il se situe au niveau du rappel. La méditation consiste à se rappeler que cette dualité est une apparence. Une fois que j'ai fait l'expérience, ben, je la renouvelle, et je la renouvelle par le rappel. Ah oui, je suis encore en train de m'illusionner. Parce que c'est pas parce qu'on l'a compris que ça va se faire comme ça. Dans le dharma, on rabâche parce que la méditation, il s'agit d'un entraînement. Rappel. Même hein, ces choses-là, pour la plupart d'entre vous, vous les avez entendues peut-être 100 fois, 1000 fois. Et nous, c'est pareil, hein, en tant que moine, c'est des enseignements qu'on réécoute, et ça parle toujours de la même chose. Mais à chaque fois qu'on l'écoute, et ben parfois ça fait office de rappel. Ah oui, tiens. Ou alors on le comprend, mais on le comprend de manière plus profonde. Tiens, je le comprenais comme ça, maintenant je le comprends peut-être de manière différente, etc. Voilà, ben je vous propose qu'on s'arrête pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions ?
Comment la sensibilité est perçue chez les bouddhistes ? Parce que le fait de réagir en trop bien ou trop mal face aux événements de manière excessive, puisque ça c'est un poison, comment fait-on pour gérer ça ? Parce que il me semble que ça peut aussi être une qualité. Comment on le gère, ça, quand on est bouddhiste ?
Alors, quand dans les enseignements, souvent on nous invite à ne pas être trop sensible, à être moins sensible, mais pas dans le sens... parce que être sensible, dans le bon sens du terme, c'est être réceptif. Voilà, par exemple, on est sensible à la souffrance de l'autre. Voilà, on est réceptif, on est ouvert, on est dans le temps présent. Donc ça c'est très bien. Mais moi j'ai entendu des enseignements où on nous invitait à être moins sensible dans le sens se permettre d'être moins blessé par tout ce qui se passe, s'autoriser à être moins blessé. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on devient hypersensible à tout, c'est-à-dire le moindre chose qui va de travers vient nous affecter. Un tel il m'a pas dit bonjour, ou un tel il m'a regardé de travers, et puis on en fait tout un truc. Voilà, et pourquoi, etc. Et on est invité justement à travailler là-dessus, c'est-à-dire à se permettre de ne pas se laisser blesser par tout ce qui se passe. On va vraiment parler de décision. On prend la décision que quoi que cette personne dise ou fasse, se autoriser à ne pas se laisser blesser, c'est pas être indifférent à ce qui se passe. Mais je m'autorise à ne pas me laisser affecter par ce qu'elle peut penser de moi ou par ce qu'elle peut dire de moi. Voilà. C'est-à-dire de voir qu'il s'agit de ses projections. Tu vois la différence quand on parle de sensibilité, c'est dans ce sens-là, quoi. Parce qu'on fait tous des projections. On fait des projections sur les gens. Il n'y a qu'à voir quand on croise une personne qu'on ne connaît pas, rien qu'à la tête de cette personne, on émet déjà des jugements. C'est intéressant de voir ça. Justement, grâce à la méditation, on peut observer ça très rapidement. Telle personne, tiens, sa tête, elle ne me revient pas. Ou alors, tiens, celle-là, je l'aime bien. On ne lui a pas encore parlé, on ne lui a pas encore adressé la parole. On fait tout de suite des projections sur les gens. Et après, peut-être, la personne commence à nous parler et tout ce qu'on avait construit s'effondre. Ça m'arrive, je rencontre des personnes, même parfois dans les chelling, des gens voilà, qui viennent à ces rencontres. Et puis, au bout de, je ne sais pas, plusieurs mois, elles me racontent ce qu'elles font dans la vie et je tombe des nues. Ça casse complètement l'image que je me faisais d'elle. Une fois, il y a une personne que je connais bien, en fait, enfin, que j'ai vue plusieurs fois. Et la dernière fois, je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a dit bah, je suis prof de karaté, ceinture noire. Alors que la nana, propre sur elle, vraiment smoking, hyper. Jamais j'aurais imaginé. Enfin, prof de karaté. Et du coup, ça a complètement changé mon regard par rapport à ça. Et on fait des projections comme ça. C'est ni bien ni mal. On fait des projections, c'est comme ça. La pratique, c'est de le savoir. Ce qui est important dans la pratique, c'est de savoir qu'on fait des projections, pour ne pas être trop dupe, pour ne pas se laisser trop influencer sur nos jugements. Celui-là, je le sens bien, celui-là, je le sens pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est si je le sais, ben je sais aussi que les gens font des projections sur moi. C'est de bonne guerre. Et du coup, si on sait ça, ben c'est OK ce que cette personne peut penser de moi. Il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat. C'est OK parce que c'est normal, on fonctionne tous comme ça. Donc c'est OK qu'elle me voit différemment de ce que je suis. Elle ne sait pas tout, elle n'a pas toutes les cartes en main. Et si elle a une mauvaise opinion de moi, c'est OK. C'est ses projections. Si elle a une bonne opinion de moi, c'est OK aussi. C'est-à-dire c'est important de pas se laisser trop influencer si quelqu'un nous dit « Ah vraiment ?» T'es merveilleux, etc. Qu'est-ce que t'as l'air zen ? Parce que nous, les moines, hein, on peut renvoyer parfois cette image-là de gens hyper calmes, hyper... Ah, vraiment ? Vous avez l'air tellement zen. Moi, je sais, quand on me fait ce compliment-là, au moment où justement ça bouillonne intérieurement, bon, bah, je vois bien que c'est la projection de la personne, parce que je peux pas me leurrer, je sais ce qui se passe à l'intérieur à ce moment-là. Et donc, du coup, bah, ça nous permet aussi de ne pas se laisser trop envahir ou blesser par les mauvais jugements ou les mauvaises situations ou trop être euphorique, trop s'emballer parce que, bah, voilà, à un moment donné, on renvoie à quelqu'un une bonne image. Et ce qui est très chouette, on prend. Ça n'empêche pas qu'on prend, mais voilà, ça va, ça vient, quoi. Ne pas trop en faire une histoire. Et ça permet d'être plus stable. D'autres questions ? On s'arrête là alors ? Oui.
J'ai pas une question, mais j'ai envie de demander tout le monde de te remercier pour cette année d'avoir une dédicace. Pour cette année d'enseignement que je trouve, et je crois qu'on trouve tous de plus en plus des enseignements inspirés et très inspirants. Donc merci pour...
Bah merci, hein, et puis c'est encourageant. Et puis bah merci à vous, hein, ce petit groupe de Nancy. Merci à Patrick pour continuer à gérer depuis tant d'années le chelling avec autant de régularité. Et de bienveillance. On fait la dédicace ? Par cette vertu, puisse-je promptement réaliser le mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.